Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De revolutionibus orbium celestium, des révolutions des sphères célestes. Tel est le titre de l'ouvrage du chanoine Nicolas Copernic, publié en 1543. Il y établissait que la Terre tournait, comme d'autres planètes, autour du Soleil, posé comme immobile au centre du monde. La Terre était ainsi délogée de la position centrale qu'elle avait occupée dans les conceptions aristotéliciennes et ptoléméennes qui avaient jusque-là prévalu. Ce livre si fondamental dans l'histoire des sciences ne fut publié dans une édition critique en français qu'en 2015, aux Belles Lettres. L'entreprise de traduction avait commencé 40 ans plus tôt, menée entre autres par l'historien de l'astronomie Jean-Pierre Verdet. Ce dernier était en 1978 invité à aller sur les traces de Nicolas Copernic à Cracovie pour trois volets de l'émission « Un homme, une ville ». Dans le deuxième épisode, on se promenait dans l'université de Cracovie que Copernic fréquenta à la toute fin du XVe siècle. Un homme, une ville, sur les traces de Nicolas Copernic à Cracovie, une émission de Nicolas Skrotsky diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er août 1978.
Aujourd'hui, nous allons retrouver Copernic alors qu'il arrive à Cracovie bouillonnant d'idées, ville des rois Jagellon et grande cité universitaire. Avec l'astronome Jean-Pierre Verdet, nous allons suivre les pas de celui qui, le premier, osa dire plus tard que la Terre n'était pas au centre du monde. Le cœur de cette ville ancienne est parfaitement conservé, pittoresque, coloré, avec sa population bien vivante. Il permet d'évoquer sans peine ce que pouvait être la cité au début du XVIe siècle.
On sait parfaitement que Copernic est arrivé à Cracovie pour le deuxième semestre de 1491. Il y a un document à l'université qui spécifie « Nicolas Copernic a acquitté tous ses droits ». Donc, il a payé, il est à l'université et il y arrive donc pour le deuxième semestre. À l'époque, il n'y avait pas de grandes vacances. Les cours étaient répartis en deux semestres. Et les vacances se prenaient pendant toute l'année. Il y avait beaucoup de festivités, beaucoup de fêtes. Le roi invitait les ambassadeurs. Eh bien, les étudiants avaient 3-4 jours pour participer aux fêtes, des choses comme ça. Donc, c'était un régime de vacances quasi permanent et un peu aléatoire.
Oui, mais alors quand il est arrivé de Terun, Copernic était orphelin. Il n'avait plus de père. Il est donc venu avec de l'argent qui lui était payé par son oncle, je suppose.
C'est ça, par l'oncle Lucas. Il y avait 4 enfants, n'est-ce pas ? 2 filles, 2 garçons. Les 2 garçons ont suivi à peu près le même cursus universitaire, et c'est celui de leur oncle. C'est-à-dire que les débuts des études supérieures à Cracovie, et puis la suite en Italie. Les études supérieures, c'était théoriquement 4 ans. Au bout de 2 ans, on était ce qu'on appelle bachelier, et 2 ans après, on était maître. Alors après, pourquoi allait-on en Italie ou pourquoi restait-on à Cracovie? Finalement, il pouvait y avoir des motivations différentes. Vous alliez dans une université étrangère parce que le doctorat que vous visiez n'étaient pas enseignés à la faculté de Cracovie, c'est le cas par exemple de la médecine, ou bien que la spécialité que vous ayez choisie soit enseignée à Cracovie, vous vouliez la préparer dans une université plus prestigieuse.
Et quel était donc le cours choisi par Copernic à son arrivée ?
Eh bien, à l'arrivée de la faculté, vous faisiez... tout le monde suivait les mêmes cours avant la spécialisation.
Le propédeutique.
C'était vraiment le propédeutique. Il fallait faire de la philosophie, il fallait faire des mathématiques. On faisait évidemment de l'astronomie, et en particulier à Cracovie, on faisait de la géométrie.
On et le tout en latin.
Et le tout en latin.
Na harmonii poleczkę ktoś gra, a na stole pół litra już stoi, a pod stołem już puste są dwa. Jak pisz, to pić do dna, a harmonia poleczkę nam gra. Jak pisz, to pić do dna, Marilos i Pantelus i ja.
Nous avons loué un fiacre et nous allons suivre le trajet que pouvait emprunter Nicolas Copernic pour se rendre à l'université. En passant la porte Saint-Florian, nous parcourons avec l'historien M. Pléjat un chemin vieux de 500 ans, un parcours de roi.
On passe maintenant la porte de Saint-Florian et nous nous trouvons dans la rue dite Saint-Florian. Devant nous se dresse la silhouette de la tour de Notre-Dame de Cracovie. La rue Saint-Florian a été très bien conservée. Presque toutes les maisons qu'on voit à droite et à gauche sont du 15e ou du 16e siècle. Ils ont été très bien restaurés à l'époque moderne et on peut s'imaginer même marcher ici le bourgeois comme il était à cette époque dans leurs longs habits très riches, brodés d'or, etc. La chose très caractéristique pour cette rue, comme pour la plupart des vieilles maisons à Cracovie, ce sont les portails en pierre, très beaux et souvent ornés avec certains signes. Nous avons passé les cloches. Et il y a aussi les animaux et les autres signes qui étaient particuliers pour chaque maison à cette époque. Les maisons sont du dehors très étroites, alors seulement à trois ou deux fenêtres chaque étage, parce qu'on payait un impôt du nombre de fenêtres qui donnaient sur la rue.
Les maisons sont peintes, les façades sont colorées, c'est un peu à la méthode italienne.
Oui, parce que c'était la coutume ici aussi à l'époque de la Renaissance. La ville était plus colorée à cause de cela, plus riche, plus intéressante. On on passe maintenant près de l'église Notre-Dame de Cracovie. C'était à l'époque, et même aujourd'hui, l'église la plus importante de toute la ville. Elle a été construite au XIVe siècle, mais les travaux duraient très longtemps. Elle n'a été finie qu'au XVe siècle. Copernic, quand il est venu à Cracovie, il a pu voir déjà le beau hôtel de Wittstwoch, sculpté en bois, qui est un des trésors de cette église. L'église est gothique, elle a deux tours, une plus haute, l'autre plus bas. Sur la tour plus haute se trouve un pompier avec une trompette qui donne son signal chaque heure aux quatre coins du monde.
Et puis ici, c'est la grande place que nous voyons sur notre gauche et avec une tour qui reste d'un monument plus important.
C'était autrefois l'hôtel de ville qui a malheureusement détruit, comme beaucoup de monuments anciens, au commencement du 19e siècle. Et seulement ce tour se dresse encore devant nous, qui faisait partie de l'ancien hôtel de ville.
Et puis alors, il y a ici, tout à fait au centre de la place, cette colonnade assez étonnante, c'est un marché.
C'est un marché où on vend maintenant le souvenir de Cracovie, mais c'était la place la plus importante au point de vue pour les marchands autrefois. Ce bâtiment s'appelait Halle de Draps. On vendait surtout les draps ici. Cette forme que l'Halle des Draps, à l'époque actuelle, c'est cette forme qu'elle avait à l'époque de Renaissance. Elle était autrefois gothique, évidemment. Il y a des parties gothiques visibles encore aujourd'hui, et surtout à l'intérieur. L'extérieur est de l'époque Renaissance. Nous passons maintenant près d'une maison qui devait être bien connue à Copernic parce que ici s'est trouvée la bourse des la maison des étudiants hongrois, Bursa Hungarorum. Il y avait beaucoup d'étudiants hongrois à Cracovie puisque les Hongrois ils n'avaient leur université à eux et ils venaient à Cracovie. Devant nous se trouve l'église des Pères franciscains qui devait être bien connue à Copernic puisqu'elle date du XIVe siècle. Et il était assez fréquenté par les étudiants à l'époque. On passe maintenant par la rue qui s'appelle en polonais Gołębia, ce que veut dire en français la rue des pigeons, et qui nous mène jusqu'à l'université. Nous approchons maintenant le quartier de la vieille université, et qui est aussi le centre de l'université actuelle, sur la place où autrefois se trouvait la maison d'étudiants Jérusalem. Se trouve le bâtiment principal de l'université actuelle. On passe près de l'archive de l'université à droite. Les archives de l'université sont très bien conservées. On a encore un album des étudiants où le nom de Copernic est inscrit avec une petite somme qu'il a payée en entrant l'université. On tourne et on approche, on va près du Collegium Minus, collège le petit. Et nous sommes déjà près du Collegium Maius, le collège le plus ancien de l'université.
Où avait travaillé Copernic? Et nous allons y entrer. Thank you.
La rue Sainte-Anne, qui s'appelait au Moyen-Âge, au 15e siècle, au commencement du 15e siècle, encore la rue judaïque, parce qu'ici se trouvaient les quartiers des Juifs. Il y avait eu une grande incendie au commencement du 15e siècle, et puis les ruines ont été achetées par les rois qui a construit sur cette place le plus vieux bâtiment de l'université qu'on appelle à Cracovie en latin Collegium Maius.
C'est là où nous entrons.
C'est là où nous entrons maintenant. Nous trouvons sur la cour Renaissance où venait Copernic lorsqu'il faisait ses études à l'université de Cracovie. L'intérieur de cette cour est à peu près le même qui était à son époque. Vous voyez les belles arcs.
La
colonnade, encore un peu ogivale, un peu gothique, mais déjà sous l'influence du style de Renaissance.
Dans les briques rouges et les colonnes sont en pierre, en
alors
calcaire.
On a peu de pierres en Pologne, et c'est pourquoi presque tous les bâtiments gothiques sont en briques ici. Seulement la cathédrale de Cracovie est en pierre.
Et c'est une sorte de cloître, on peut imaginer Copernic se promenant
non,
là.
Évidemment, puisque, alors vous avez tout à fait raison, c'était une sorte de cloître parce que les professeurs étaient tous les clercs, alors ils vivaient ici en commune. C'est un grand avancement d'être logé ici. Seulement le professeur le plus âgé et le plus en mérite et qui trouvait sa place ici. Et seulement le professeur vivait ici. Les étudiants devaient loger ici seulement en qualité de serviteur de professeur. Mais le professeur donnait aussi ses cours ici. Il y a là-bas une très belle collection des instruments astronomiques que vous allez voir. Et dans cette cour se jouait toute la vie de l'université.
C'était le cœur en quelque sorte.
Évidemment.
Les salles anciennes de la vieille université où étudia Copernic ont été conservées dans l'état où elles se trouvaient, avec leurs sombres boiseries, leurs meubles patinés, leurs tableaux. On y a exposé aussi le trésor d'orfèvrerie lié à la vie de cette glorieuse maison. Et des instruments astronomiques, bien entendu, de la Renaissance, évoquent le travail de Copernic. Ce musée, nous allons le découvrir avec son directeur, M. Stanislas Valtos, l'historienne des sciences, Mademoiselle Roginska, et notre ami astronome, M. Verdet.
Il mange ici.
Ils donnaient leur cours.
Naturellement, ils donnaient leur cours au rez-de-chaussée.
Puis les étudiants, ils habitaient facilement dans le bus qui était autour.
Oui. Et ça, ce sont les trésors, alors. C'est le trésor. Nous avons le plus ancien enseigne de l'université, probablement dans l'époque.
Voilà les armes du recteur.
Oui, ce sont les sceptres, ce sont les sceptres du recteur.
Oui,
c'est les sceptres du recteur et les sceptres des membres du Sénat. Oui, ce sont. Oui. C'est une l'horloge. C'est une horloge nommée l'horloge. Le globe Jagellon.
Oui, il y a différents objets en orfèvrerie qui sont d'ailleurs très beaux.
C'est une sceptre plus ancien. Plus ancien, c'est une donation de la
Jakie jest królowa? Jak się mówi królowa po francusku? Ren. De la reine Hedwigis. De la famille Anjou.
De la reine Hedwige.
Oui.
De la famille d'Anjou.
De la famille Anjou, oui. No to chodźmy. To chodźmy teraz prosto do skarbca. Ce sont l'appartement de professeur. De beauté Copernic.
Ah, oui, ça c'est l'époque copernicienne.
Ça c'est parmi les plus beaux instruments du monde, aussi beau que des Habermel. Magnifique.
C'est une portrait du père de Copernic, Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus Paternico. Nicolai Copernica Astrologia Unius Miraculus. Prawdopodobnie jest hipoteza. C'est une seulement hypothèse. Parce que c'est une seulement hypothèse. Parce que l'auteur de cet portrait a été Copernicus lui-même.
Il a peint lui-même.
Ah, Copernic a peint lui-même. On pense que Copernic a peint son père et on pense qu'il a existé un autoportrait de Copernic qui a disparu, dont ceci serait...
Une copie, seulement une copie. C'est une seulement copie. Parce que...
Le portrait bien connu de Copernic que l'on voit en général...
Celui de Torun, oui. Celui de Torun est le seul portrait de Copernic qui soit à la fois daté dans le temps et dont on soit sûr qu'il représente Copernic. Les autres portraits sont toujours hypothétiques et presque toutes les gravures dérivent des mêmes portraits. L'autoportrait perdu, le portrait de Torun, et puis le grand portrait de Copernic qu'on peut voir là, au musée de Strasbourg. On peut peut-être signaler là que l'époque de Copernic, c'est la grande époque de la peinture de l'école allemande, enfin des écoles du Nord. C'est-à-dire que Copernic est le strict contemporain de gens comme Luca Cranach, comme Hans Holbein et comme Albrecht Dürer. Ce sont ses contemporains directs. C'est-à-dire que Copernic a vraiment vécu au grand moment de la peinture allemande, enfin des écoles du Nord, disons.
Mademoiselle Roschinska, quels sont les instruments qui ont été utilisés pour les observations astronomiques par les contemporains de Copernic lorsqu'il était à Cracovie et qu'il a utilisé peut-être lui-même?
Alors nous voici dans cette salle de l'ancienne université, la salle dite de Copernic, où nous sommes devant une collection des instruments qui sont arrivés à Cracovie et juste au temps où Copernic faisait ses études. Donc il est... connaissait certainement, et c'est très possible qu'il a pu même se servir de ces instruments. Nous avons tout d'abord un grand astrolabe, la taille de l'instrument était très importante à cause de la possibilité d'avoir des résultats plus précis, comme ça on pouvait marquer
les divisions.
Oui.
Quelle était l'utilisation de l'astrolabe?
C'est un instrument qui servait pour des buts très différent. On se servait également pour prendre l'altitude des corps célestes, n'est-ce pas? On a pu se servir pour les observations des corps célestes. D'ailleurs, dans les manuscrits, nous trouvons les endroits où on parle de cela. Et puis, oui, c'était également une espèce d'instrument de calcul grâce au procédé tout à fait exceptionnel de système de projection de sphères et qui permettait de donner les lieux des étoiles,
les positions
des étoiles pour l'endroit donné, n'est-ce pas?
Et la date donnée.
Et la date donnée.
Oui, parce que vous avez des cercles
qui peuvent, disons, rouler les uns par rapport aux autres, et ça peut vous donner donc l'état du ciel un certain soir au-dessus d'une certaine ville, parce qu'évidemment c'est l'horizon qui limite la visibilité des étoiles la nuit. On ne voit que les étoiles qui sont au-dessus de l'horizon, évidemment, puisqu'on ne voit pas à travers la Terre. Ça veut dire que vous devez avoir, sinon un astrolabe complet, du moins ce qu'on appelle l'araignée, c'est-à-dire cette partie mobile et ajourée qui permet de voir à travers le cercle, vous devez avoir une araignée par latitude.
Est-ce que ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé cela ?
On se demande l'histoire, la préhistoire de cet instrument très obscur. De toute façon, en Europe, l'emploi de l'astrolabe est lié à la tradition arabe, à l'audience de l'astronomie arabe.
Il faut peut-être signaler quand même que les historiens ne sont pas tous d'accord sur l'utilisation de l'astrolabe. Et quand on voit un astrolabe, enfin, celui-ci est très grand, et Mlle Orczyska l'a fort bien signalé, plus un instrument de ce type est grand, plus il peut être précis, parce que les graduations sont plus faciles
à lire
et à graver même. Mais il est certain qu'en plus, l'astrolabe devait avoir une fonction pédagogique très importante. Et certains historiens pensent que la fonction pédagogique l'emportait très largement sur les possibilités d'observation à l'astrolabe. Parce que ça familiarisait les étudiants au grand cercle que l'on avait coutume de définir sur la sphère céleste, et ça les matérialise d'une part et ça les projette dans un plan d'autre part.
Ici, nous sommes devant une sphère céleste des dimensions assez considérables qui est surmontée d'une espèce d'un astrolabe, mais je pense que c'est plutôt pour les raisons de décor plutôt que pour faire des observations ou pour calculer.
En réalité, c'est une sorte de représentation presque symbolique du ciel avec les constellations qui sont indiquées et dessinées avec la grande ours, le lion, le cygne, etc.
Oui, ce globe était l'objet des études aussi de la part des historiens de l'art, des astronomes qui ont était très intéressé. Quel est le rapport des étoiles gravées ici au catalogue de Ptolémée, qui est le plus fameux, et son catalogue de 2200 étoiles fixes. Ici, les étoiles ne sont pas aussi nombreuses, mais elles sont groupées par des constellations, et nous avons des très belles gravures représentant ces constellations.
Il y avait peut-être aussi une signification astrologique, puisque astronome et astrologue
oui.
Travaillaient, si je puis dire, ensemble.
Oui, mais en ce cas-là, peut-être il s'agit plutôt d'impressionner quelqu'un qui arrive pour chercher les conseils d'un astrologue que réellement de se servir de cet instrument pour l'astrologie.
Alors là, nous sommes dans la salle de réunion et où sont exposés plusieurs instruments qui sont des copies, je crois, de ceux utilisés sans doute, mais véritablement
utilisés. Pas à coup sûr, là, oui. Oui, ce sont des copies. Évidemment, ce sont des copies parce que ce sont trois instruments en bois. Bon, le bois est un matériau extrêmement fragile et, évidemment, la conservation en est difficile. Mais ils sont absolument fidèles. Alors là, on peut affirmer, d'une part, que ce sont des instruments destinés à l'observation et, d'autre part, que ce sont des instruments utilisés par Copernic, parce qu'ils sont reconstruits très fidèlement à partir de la description que Copernic fait de ses propres instruments dans son grand livre, dans le De Revolutionibus. Description d'ailleurs qui ressemble assez fort à la description que Ptolémée fait de ses propres instruments, ce qui montre bien que finalement, au bout de 14 siècles, on emploie toujours les mêmes instruments, toujours avec le même but, pour le même type d'observation.
Alors ça, il s'agit d'une sphère armillaire, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une sphère armillaire. D'ailleurs, elle était reconstruite grâce à l'initiative de M. Przypkowski, un historien de l'astronomie et un grand collectionneur des instruments astronomiques, très intéressé par les instruments de Copernic.
Comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser, M. Verdet ?
Alors là, on voit un instrument qui est très intéressant parce que on a dans l'espace ce que l'astrolabe représente en projection dans le plan. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe. Alors ici, vous avez vraiment une matérialisation de la sphère céleste d'une part et de la sphère terrestre d'autre part. C'est-à-dire que vous avez le système, vous pouvez avoir accès au système de coordonnées sur le fond de ciel, et en particulier ici, vous avez ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire le trajet, vous avez la matérialisation du trajet du Soleil au cours de l'année parmi le champ d'étoiles, et vous pouvez également, toutes ces sphères pivotant les unes par rapport aux autres, vous pouvez orienter cette écliptique par rapport à l'équateur terrestre, puisque vous savez que le cheminement du Soleil définit donc un plan qu'on appelle l'écliptique, et que ce plan est incliné d'à peu près 23 degrés, un petit peu plus de 23 degrés, par rapport à l'équateur terrestre. Donc vous pouvez faire des observations et mesurer des angles d'astres observés directement par rapport à l'écliptique, ou par rapport à l'équateur, ou par rapport à l'horizon. Vous pouvez matérialiser l'horizon dans ce type de sphère.
Quand vous dites le cheminement du Soleil, c'est le cheminement apparent, bien entendu.
Le cheminement apparent du Soleil, puisque depuis Copernic, on sait que c'est en réalité la Terre qui fait le tour du Soleil en un an, et que autour de ce périple, la Terre défile devant les constellations du zodiaque qui peuplent l'écliptique.
Mais alors, on pouvait aussi faire les relevés des positions des étoiles, du Soleil et de la Lune par rapport à l'horizon terrestre grâce à d'autres instruments.
D'autres instruments.
Et là, nous en avons. On va les regarder, qui sont également des reproductions.
Ce sont les trois grands instruments de Copernic. Tous sont des reproductions, évidemment. Tous sont en bois. Ils sont très intéressants parce que, en plus, la lunette n'est pas encore inventée, puisque la lunette, il faut attendre 1609, n'est-ce pas ? Il faut attendre le début du XVIIe siècle. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que l'on voit que finalement, avec l'astronomie à l'œil nu, pourrait-on dire, eh bien, on peut comprendre beaucoup de choses dans le ciel. Et avec des instruments extrêmement rudimentaires. Ici, vous avez un grand cadran, vous avez un quart de cercle en bois, qui est gradué de 0 à 90 degrés. Et puis, en haut de ce cadran, c'est-à-dire au centre du cercle, vous avez simplement un petit morceau de bois, vous voyez, qui est fiché dans le plan du cadran, donc qui est perpendiculaire au cadran. Et ce petit morceau de bois projette son ombre, à condition qu'il y ait du soleil, évidemment. C'est-à-dire qu'avec un instrument aussi sommaire que cela, vous pouvez, à chaque heure du jour, connaître la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Alors, déjà, vous pouvez... Ça n'est pas un cadran solaire en ce sens qu'il ne donne pas l'heure. C'est le même principe que le cadran solaire, puisqu'il fonctionne à partir de l'observation de l'ombre d'une aiguille ou d'un morceau de bois, d'un bâton. Et à partir de la mesure de cette ombre, on peut connaître la position du soleil au-dessus de l'horizon. Alors ça, à chaque moment de la journée. Mais le plus intéressant, c'est de renouveler ce type d'expérience chaque jour. Parce que vous savez que la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon varie d'un jour à l'autre, qui provoque l'effet de saison, disons. Et alors, cet instrument est très intéressant, très rudimentaire, mais très intéressant, parce que si vous faites une mesure à midi, le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour où le soleil passera le plus haut au-dessus de l'horizon, et puis vous refaites une autre mesure au solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour, à midi également, n'est-ce pas ? Mais le jour où le soleil est le plus bas sur l'horizon. Vous mémorisez, vous notez vos deux mesures, vous faites la différence, et la différence vous donne un certain angle qui est le double de ce qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique, c'est-à-dire qui est le double de cet angle entre l'écliptique et l'équateur. C'est-à-dire qu'avec un instrument si sommaire que ça, vous avez rapidement accès avec une assez bonne précision, disons à 10 minutes près, 10 minutes d'arc près, de l'angle entre l'écliptique et l'équateur. Par une simple différence, cette différence vous débarrasse de la latitude du lieu. Par soustraction, vous éliminez les phénomènes qui sont liés à votre position sur la Terre.
Et alors, cet instrument-là ?
Alors, cet instrument a un nom barbare, c'est un triquetrum, mais finalement, c'est peut-être le plus simple de tous, et je crois qu'on pourrait l'appeler un fusil à étoiles. Alors, vous avez un triangle articulé, c'est-à-dire que vous avez trois barres, d'où le nom de triquetrum. Vous avez trois barres de bois, vous avez une barre fixe qui est verticale, et vous avez deux barres articulées à chaque bout de cette verticale.
C'est-à-dire que le triangle est déformable, ce qui vous oblige, voyez ici, à avoir ce qu'on appelle une boutonnière, parce qu'un triangle n'est pas déformable. C'est même la...
C'est-à-dire que l'un des morceaux de bois
coulisse dans l'autre, et pour permettre ce coulissement, vous avez une boutonnière qui permet également un glissement. Et c'est un fusil à étoiles, c'est-à-dire que avec un tel instrument, eh bien, vous avez une ligne de visée, absolument comme sur un fusil. Vous visez et vous déplacez donc une barre.
Et vous avez l'angle par rapport à l'horizon.
Oui, par rapport à l'horizon. Ici, par rapport à la verticale, mais bon, par contre, ce qui revient même en faisant une différence à 90 degrés. Donc, vous visez des étoiles et surtout des différences angulaires entre étoiles. Les observations de la Lune étaient très, très importantes parce que la Lune a le privilège d'être observable en plein jour. Que ce soit les planètes, le Soleil ou la Lune, le problème, c'est de les situer sur le champ d'étoiles, parce qu'il faut un système de repères pour repérer. Donc, il faut dire où c'est par rapport à quelque chose. Donc, ce quelque chose, le quadrillage, si vous voulez, de référence, c'est ces grandes figures que dessinent les étoiles sur le fond de ciel et qu'on appelle les constellations, et qui gardent des formes permanentes au cours du temps. Alors, le gros avantage de la Lune, c'est que vous pouvez la voir en plein jour. Donc, vous pouvez situer la Lune par rapport au Soleil, en différence angulaire. Vous pouvez dire la Lune est à tant de degrés du Soleil. Et la Lune, vous la voyez également la nuit, c'est-à-dire que vous la voyez sur le champ d'étoiles. Donc la Lune est très importante parce qu'elle permet de positionner le Soleil par rapport au champ d'étoiles. Ça vous permet donc d'accéder au cheminement du Soleil, au cheminement apparent du Soleil sur le fond de ciel, par rapport aux étoiles, bien que le Soleil, lui, ne soit jamais vu sur le champ d'étoiles, puisque la lumière diffusée par le Soleil fait disparaître les étoiles du ciel. Elles sont toujours là, les étoiles, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont noyées dans la lumière solaire. Donc les observations de la Lune étaient très importantes de ce point de vue-là. Elles permettaient de relier le Soleil aux étoiles.
Mademoiselle Roshinska, c'est ainsi donc que, sans doute, Copernic a pu observer et vérifier ses théories.
Oui, Copernic, mais dans ce sens... Là, il suivait les traces de Ptolémée parce que nous sommes en face des instruments connus par Ptolémée. Ainsi, nous pouvons conclure que, à la base de deux systèmes fondamentaux de l'univers, se trouvent les instruments d'une simplicité extraordinaire. Ça suffisait pour
tenter de comprendre.
Oui, de l'univers, n'est-ce pas? Et puis, c'est faire une théorie qui est toujours actuelle.
La salle d'honneur de l'université, dans sa grandeur solennelle, est toujours en activité. Mais peut-on dire que l'université soit liée à la vie sociale et politique de la ville? Est-ce qu'il y a un lien? Qu'en pensez-vous, M. Pavel Tchatarovski?
Il y a surtout un lien entre la vie sociale de l'université et surtout la vie des étudiants dont nous parlons de Copernic. Copernic faisait partie. Donc, il est entré dans une corporation d'étudiants qui donnait un certain caractère à la ville. Et l'endroit où nous nous trouvons maintenant, ça veut dire la salle d'honneur de l'université, peut être traité comme symbole des liens de l'université avec la ville, d'une part, avec les rois qui étaient les patrons de l'université, de l'autre. Donc, nous voici entourés par les portraits de personnages qu'on a déjà rencontrés au cours de notre balade dans les rues ou dans les salles du château de Cracovie. Et
cette salle est d'ailleurs toujours vivante, elle est encore utilisée.
Oui, elle est utilisée pour les grandes occasions universitaires, pour les doctorats, d'honneur, pour les sessions solennelles avec les autorités ou les personnages étrangers qui visitent la Pologne.
Oui, les meublés de grandes stalles en bois avec des dorures où venaient prendre place, où viennent prendre place.
Où viennent place. Dans leur costume traditionnel, n'est-ce pas, les membres du Sénat, académique, le recteur.
Et au-dessus se trouvent tous les tableaux
qui
de ceux qui firent les gloires de cette ville.
Puis-je vous en montrer quelques-uns ?
Bien sûr.
Si vous permettez, on commence par l'historien Jean Dougoche Longinus du XVe siècle. Son voisin sur le mur, c'est l'évêque Cromer, qui était évêque de Varmi, deux générations après Copernic, et qui a écrit l'histoire de Pologne, qui était lue dans toute l'Europe de l'époque. Ensuite, nous passons au XVIIIe siècle. Voilà Hugo Cointail, qui était le réformateur de l'université dans l'époque des Lumières, et son voisin Jean Chniadecki. Il y avait deux frères Chniadecki. André était le fondateur de l'observatoire au XVIIIe siècle, où se trouvent les instruments déjà historiques, mais à l'époque assez modernes, dont on se servait. Nous passons vers les temps plus récents, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, deux professeurs de Cracovie, à une centaine de mètres d'ici, sont parvenus les premiers à liquifier l'air. Et voici le portrait d'un d'eux. C'est le professeur Olszewski, le second s'appelait Wróblewski, et lui, quelques ans plus tard, il est mort à cause d'un accident dans son laboratoire. Peut-être nous sortons par la porte d'honneur, et là, vous voyez une inscription latine disant « plus ratio quam vis », ce qui veut dire... la raison avant la force. Et ça, c'était à travers les six siècles de l'université, la devise des hommes de science qui travaillaient dans diverses situations, diverses conditions d'essor de leur ville.
Je pense que c'est tout à fait symbolique. Après leur cours, le soir, les étudiants allaient boire et discuter dans les tavernes. Et nous avons suivi cette habitude. Avec Mademoiselle Roshinska et notre équipe, nous avons occupé une table sous les voûtes du donjon de l'ancien hôtel de ville. Nous sommes ici dans une taverne et l'on peut imaginer que Copernic venait avec des étudiants boire de la bière.
Oui, nous n'avons pas d'informations sur les tavernes du XVe siècle, nous ne savons plus où elles se trouvaient, mais nous savons qu'elles étaient fréquentées par les étudiants, parce que dans les documents, on a conservé les témoignages des punitions distribuées aux étudiants qui ont bu un peu trop et puis qui faisaient du bruit dans la nuit. Donc ça veut dire que la vie étudiantine était pittoresque, et puis, comment dire,
était pittoresque. Et je pense qu'ici, d'ailleurs, pour restituer cette atmosphère, il y a un orchestre, peut-être, je ne sais pas s'il y avait des tziganes qui jouaient du temps de Copernic, mais en tout cas, les serveuses sont tout à fait habillées comme on devait être habillé en ce temps-là, avec des grandes robes et des chapeaux. Regardez, bleu avec des raies rouges et des manches avec des crevets, c'est tout à fait Renaissance.
Oui, et puis pour la musique, de toute façon, je ne sais pas s'il y avait des tziganes, mais il y avait des Hongrois qui étaient les étudiants ici, et puis il y avait pas mal des Hongrois en ville, donc je pense que Cracovie était très bien servie en musique, c'est pas le violon surtout.
Eh bien, nous allons commander nous aussi, comme des étudiants.
Le miel avec des
épices. Les grands mêles.
Le miel épices Et puis c'est chaud. C'est chaud. Miel, épices.
De l'hydromel. Et bien qu'on nous verse de l'hydromel.
Qu'est-ce que c'est le l'hydromel?
C'est
ah bon? Ah bon? Alors c'est... Donc il y a de taille. Od małego, bo gdyby przypadkiem oni nie tyli pierwszy raz się piją, więc jeśli by nie smakowało, to powtórzą. To na razie pulmus.
C'était « Un homme, une ville » sur les traces de Copernic à Cracovie par Nicolas Skrotsky, deuxième volet d'une série de trois émissions diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er août 1978. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger à la page des nuits sur le site franceculture.fr.